Père éternel, je veux te remercier pour ton esprit. Ton esprit, Père, qui habite en moi, qui habite en nous, Seigneur. Ton esprit qui nous réconforte, qui nous parle de toi, qui nous aide à grandir dans ta parole. Ton esprit qui applique ta parole dans nos cœurs. Qui place sur notre chemin aussi des frères et des sœurs qui nous exhortent, nous encouragent, nous édifient en nous racontant ce qui se passe dans leur vie. Ton esprit qui régénère des cœurs encore aujourd'hui, Seigneur. Je suis vraiment béni, Seigneur, parce que la terre ici est sèche. Et lorsqu'on entend une conversion par-ci, par-là, Seigneur, nos cœurs sont émus, édifiés de voir que tu peux encore détourner des Québécois d'eux-mêmes, Seigneur, pour les tourner vers toi. Père, je veux te demander de bénir ce temps que nous allons passer à étudier la personne de Christ dans toute sa beauté, sa divinité. Seigneur Jésus, tu es un être fantastique, merveilleux. Tu dépasses ce que la fiction, ce que l'homme a pu concevoir de plus grand, Seigneur. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu, mais parce que ton œuvre aussi est magnifique, Seigneur. Je veux t'adorer, Seigneur Jésus. Je veux déclarer avec ton nom, mon Seigneur et mon Dieu. Père, j'aimerais te prier pour Diane qui est à l'hôpital, qui était confuse hier lorsqu'elle m'a laissé le message. Je te prie de mettre ta main sur elle, sur son cœur, qu'elle puisse toujours s'abandonner entre tes mains. Que tu puisses mettre ta main, Seigneur, sur les médecins qui la soignent. Je te prie, Seigneur, de mettre ta main sur elle et de la conduire, Père. Parle-lui. Parle-lui. Bénis-la là où elle est, Seigneur, malgré l'épreuve. Seigneur, aide-nous à prendre plaisir à plonger les regards dans ta parole pour être en communion véritablement avec toi. C'est en Jésus-Christ que je te prie. Amen. Amen. Je veux juste vous mentionner, il y a quelqu'un qui m'a posé la question la semaine dernière. Je vous rappelle que les MP3, okay, il y a une bande audio qui est disponible sur le site web, puis les notes sont toujours disponibles. Alors, j'ai une ou deux personnes qui sont allées faire le cours de l'Église de l'Espoir et qui me demandaient, penses-tu que ça va poser un problème? Mais s'il est prêt à mettre le temps pour aller écouter ça, il n'y a pas de problème. Vous allez pouvoir suivre jusqu'à la fin de la session. J'ai aussi quelqu'un qui m'a surpris. Il y a une des personnes qui prenait le cours qui a acheté la théologie systématique de Grudem. Fait que je sais que ça paraît ambitieux pour nous, mais hier à la conférence sur la famille avec Monsieur et Madame Hughes, dans les conseils pratiques à la fin de leur livre Disciplines of a Godly Family, dans tous les conseils pratiques qu'ils donnent, un des conseils pratiques qu'ils donnent, c'est comment composer une bibliothèque familiale comme chrétien. Pour pouvoir être prêt à avoir des belles discussions autour de la parole avec nos enfants, quand nos enfants nous posent des questions, puis on peut plonger avec eux dans les Écritures et on leur apprend à prendre plaisir, à aller chercher des réponses, puis on ne les a pas toujours. Et donc, ils donnaient toute une série d'outils, des dictionnaires bibliques assez larges, tout ça. Et entre autres, dans la vision des Hughes, la théologie systématique de Grudem devrait être dans tous les foyers chrétiens. Fait que c'est sûr que je comprends là, qu'il y a toute une différence culturelle, évangélique américain, évangélique québécois, avec notre culture à nous, notre histoire par rapport aux livres, les Québécois. Je suis conscient de ça, mais je veux vous encourager quand même à considérer de vous équiper de bons outils puis d'apprendre à trouver plaisir, à aller chercher vos réponses. Parce que c'est comme ça que vous allez devenir des formateurs de disciples, que vous allez apporter des réponses aux gens. Et là, dans notre cas, avec la théologie systématique de Grudem, bien, elle est très, très bien traduite en français chez Excel 6. Là. Comme je vous dis, c'est un petit cadeau familial. C'est à peu près 90 $. Mais ça vaut la peine. C'est un bon outil. OK, alors la semaine dernière, on a vu ensemble l'humanité de Christ. Et puis, cette semaine, on voit ensemble sa divinité. La semaine prochaine, on va voir son œuvre. Je sais que je me répète, là, puis c'est pas pour remplir le temps. Je vous dis, on fait juste effleurer le sujet. Et Par exemple, Grudem, dans sa section sur la divinité de Christ, adresse des questions importantes et intéressantes que je ne peux pas aborder ici. Ce serait, j'irais à un autre niveau. Mais en même temps, c'est des questions que vous allez rencontrer peut-être à certains moments. Il va aborder plusieurs des textes difficiles, des textes où Christ semble dire qu'il n'est pas Dieu. Et donc, comment est-ce qu'on comprend ces textes-là? On ne pourra pas tout faire ça ici dans une session d'une heure. Il aborde toute la question des deux natures, la nature divine et la nature humaine. Comment est-ce que ça peut cohabiter? Comment est-ce qu'on comprend ça? Et puis, il parle justement du concile de Chalcédoine, où ils ont adopté quelque chose pour résumer justement une position qui résumerait bien l'enseignement biblique sur la cohabitation des deux natures de Christ, sa nature humaine, sa nature divine. On ne peut pas aborder ça. Ça serait trop de matière pour un survol. Si vous faites éventuellement le cours avec Stéphane de Christologie, j'imagine que vous prenez un bon temps là-dessus. Oui, c'est ça. Fait que c'était en combien de semaines tu le faisais? Deux sessions ou une session? Deux sessions. Sur une session. Fait que 16 semaines à peu près, 15 semaines. C'est ça. OK. Mais il y a du bon matériel aussi si vous voulez lire. Il y a d'autres choses moins onéreuses aussi que Grudem qu'on pourrait vous proposer. Alors, la divinité de Christ ce matin. Je reviens avec ma définition que j'avais au début de la première partie de la leçon. Jésus-Christ est pleinement Dieu et pleinement homme. En une seule personne, il le sera éternellement. Fait que, juste pour vous faire participer quelques instants au début ce matin, j'aimerais ça savoir comment est-ce qu'on peut défendre la divinité de Christ. Juste de mémoire, vous rappelez, comment je peux défendre la divinité de Christ à partir des Écritures? C'est quoi les lignes d'argument ou des passages? Peu importe. Oui. Salut. Je pense qu'il faut que tu parles fort. OK. Ça s'en vient. Il faut mettre le volume. Vas-y. Continue à parler.
Okay. C'est beau. Seulement les anges peuvent adorer Dieu.
Seulement les anges peuvent
adorer. En droit d'adorer. Puis,
c'est-à-dire, nous aussi, on adore Dieu. Je ne suis pas sûr que
non,
je comprends.
Mais en ce sens que Jésus s'est laissé adorer par Pierre.
OK. OK.
Tu comprends?
Oui, oui, absolument. Alors, on peut juste adorer Dieu, n'est-ce pas? Les anges ne permettent pas qu'on les adore. Pourtant, Christ a accepté l'adoration. Hein? C'est un argument pour démontrer la divinité de Christ. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit à part de ça? Qu'est-ce qu'on a comme piste, indice, texte, n'importe quoi, qui, à partir des Écritures, qui nous aide à voir que Christ est Dieu? Oui, Linda.
Si je ne me trompe pas, Jean 1, 1.
Oui.
Il dit que la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, et on descend jusqu'à Jésus-Christ.
OK, exactement. Alors, Christ est présenté. La parole dans Jean 1, on va le voir tout à l'heure, c'est Christ, n'est-ce pas? Et oui. Et donc, Jean 1, 1 nous déclare que cette parole-là était avec Dieu et qu'elle était Dieu. Oui.
Tous les récits de la conception de Jésus, quand l'ange lui dit « Ne crains pas, Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit ». Et puis aussi, voici la Vierge sera enceinte et enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous.
OK. Oui,
sa conception.
OK. OK. Conception miraculeuse par l'Esprit. Le titre qui est évoqué, hein, Emmanuel, Dieu parmi nous. Est-ce que ça veut simplement dire que Dieu était avec Jésus ou ça veut dire que Jésus était vraiment Dieu parmi nous? Définitivement plus B que A. OK, c'est bon. Deux, trois encore, puis après ça, on rentre dans les notes. John, puis après ça, on va la suivre.
Mais quand il dit que moi et le Père, nous sommes un, si vous avez connu le Fils, vous avez connu le Père aussi.
Excellent, excellent. Quel est l'évangile qui nous aide le plus au niveau de la divinité de Christ? Jean, c'est bon.
C'est l'un qui est assez puissant, c'est la fameuse question que Philippe a posée à Jésus. Quand il était dans la chambre haute, il a dit, « Montre-nous le Père et cela nous suffit. » Puis la réponse de Jésus, ben, il dit... j'essaie de me souvenir là, par cœur de même.
Ouais, c'est ça.
Il dit, pourquoi me demandes-tu? Il dit...
Moi, je suis avec vous tous les jours.
Ouais, c'est ça. Il dit, tu ne m'as pas connu, mais ça serait bon de le lire.
Oui. C'est un excellent texte. Oui, merci. Un dernier? Oui. Une dernière intervention? C'est bon? Alors, par exemple, dans des questions comme celle-là, comme Emmanuel, puis comme celle que Sylvain vient de citer, bien, certains vont dire, OK, Jésus est vraiment la manifestation de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Tu sais, si tu connais Jésus, tu connais vraiment Dieu parce qu'il représente très, très bien Dieu. Je pense que c'est faux. On va aller vers d'autres textes pour le démontrer. Puis après ça, on vient relire ces textes-là, puis là, on dit, bien, il est en train de le dire là aussi. Mais certains vont dire, par exemple, Emmanuel, ça veut dire que Dieu accompagnait vraiment Jésus. Vous comprenez? Comme le porte-étendard, c'était une manière d'exprimer que le roi était avec l'armée qui était là. Certains vont le voir comme ça, ceux qui ne veulent pas reconnaître la divinité de Christ. En quoi l'Apocalypse vient nous aider là-dedans?
Peut-être que l'Apocalypse vient mettre un sceau à tout ça, puisque dans l'Apocalypse, l'agneau est clairement démontré comme Dieu. Il est assis sur le trône, il reçoit l'honneur, la gloire et l'adoration. Donc, dans l'Apocalypse, la vision de Christ nous montre clairement que les textes qui peuvent sembler obscurs dans le Nouveau Testament doivent être interprétés dans le sens de la divinité de Christ, puisque la manifestation de l'agneau, c'est Dieu.
Amen. On va aller un petit peu dans l'Apocalypse tout à l'heure, parce qu'en effet, je dirais que c'est, tant qu'à moi, c'est le livre qui finit bien tout ça, puis qui confirme tout ça de manière extraordinaire. Parce que justement, on a une vision céleste. On n'est plus juste dans les déclarations terrestres de Jésus. Là, on est en train de voir ce qui se passe au bord, puis wow! Tu vois où est justement Christ. OK, alors dans vos notes, on est sur votre deuxième feuille qui est de la page 3, là, parce que j'enlève toujours juste la page qui présente le cours. La divinité du Christ. À présent, comme nous avons examiné l'humanité de Christ, nous devons d'examiner sa divinité, sans quoi nous ne saurions prétendre à une véritable compréhension de Jésus-Christ. Ça, c'est important, d'accord? Je comprends qu'on vit à une époque de tolérance. Je comprends qu'on veut être le plus indulgent possible puis reconnaître le plus de choses vraies dans les autres religions ou dans les autres mouvements dits chrétiens. Je comprends cette ouverture-là. Il y a un livre qui vient juste de sortir. Là, je suis en train de lire une critique de ce livre-là. Vous êtes avec moi? Ça vient par ici. Puis ce livre-là, c'est « Est-ce que Allah est... » Donc, « Est-ce que le Dieu des musulmans puis le Dieu des chrétiens est le même Dieu, en fin de compte? » Et c'est un théologien protestant plus large que moi qui essaie de démontrer par des raisonnements toutes les similitudes. Un petit peu ce que Adam Odiko a fait. Ceux qui étaient ici, il a quand même pris le temps de reconnaître tous les points communs qu'on avait dans notre théologie puis, en gros, les divergences qu'on a sur la vision de Dieu. Je pense que c'est de bonne foi de le faire. Mais ce théologien-là arrive comme conclusion qu'effectivement, on adore le même Dieu. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Fait que je comprends qu'on vit une époque de tolérance, puis je comprends qu'on voudrait aborder des gens, mettons, comme les témoins de Jéhovah, puis dire « Ces gens-là sont tellement exemplaires dans leur éthique de vie, puis tout ça. » C'est vrai, c'est des collègues de travail extraordinaires qui ont des bonnes attitudes au travail, généralement, tout ça, puis il faut respecter, puis il faut honorer ces choses-là. Mais s'ils ne reconnaissent pas la divinité de Christ, ils ne peuvent pas prétendre connaître Christ véritablement. D'accord? Ça, c'est important, là, ce que je viens de vous dire. Si tu ne reconnais pas la divinité de Christ, tu ne connais pas Christ. Tu connais des choses sur lui, puis tu as une fausse conception de lui. C'est comme si on me disait à moi, Yannick, tu es un être humain, mais tu n'es pas un homme. T'es une femme. Ben non, je veux dire, tu sais certaines choses sur moi, tu sais pas tout, tu sais. Puis tu t'en viens voir Camille, puis tu te dis, mais toi, t'es un gars, t'es pas une fille. Non, je dis, non, je suis un être humain. OK, t'es sur la bonne voie, là, mais il te manque un gros morceau, hein. Fait que, ils reconnaissent son humanité, ils veulent pas reconnaître sa divinité, c'est une partie essentielle de la révélation de ce qu'il est comme personne. Alors, si je veux connaître Christ, il faut que je connaisse son humanité et sa divinité. Après ça, il y a des difficultés, il y a des mystères, il y a des choses que je laisse à lui, je le comprends pas. J'essaie encore de comprendre mon épouse, puis je l'aime. T'sais? Fait que je comprends pas tout à fait Christ, puis je peux l'aimer, d'accord? Mais il faut que je reconnaisse qu'il est Dieu et qu'il est homme. C'est vraiment fondamental. L'Église a généralement parlé de sa divinité en utilisant le terme « incarnation ». Alors, c'est simplement l'idée que la divinité s'est incarnée. D'accord? On fait le lien avec le terme « incarnation ». On fait le lien entre la divinité et l'humanité. La divinité est devenue homme. Ça ne veut pas dire qu'elle n'était plus Dieu, elle est devenue homme, elle s'est incarnée. C'est le terme que vous allez rencontrer généralement en théologie. Alors, premièrement, affirmation scripturaire. Ceux qui ont déjà lu sur ce sujet-là, là, vous allez voir, je vais juste dans des arguments vraiment de base, je vous le dis. Maintenant, pour plusieurs, je pense que ça va être un affermissement, pour d'autres, ça va être carrément nouveau. Affirmation scripturaire directe. Le mot « Dieu » appliqué au Christ. Le mot « théos », « Dieu » est utilisé à plusieurs reprises, je m'excuse, j'ai manqué une petite faute ici, à plusieurs reprises pour la personne même de Christ dans le Nouveau Testament, et il est utilisé pour parler du Christ une fois aussi dans l'Ancien Testament. Alors évidemment, « théos », « Dieu », a priori, c'est pour parler de Dieu, le Père. On s'en tiendrait à ça. Mais non, dans le Nouveau Testament, à plusieurs reprises, il est utilisé pour parler de Jésus lui-même, Jésus-Christ. Je vous donne les plus évidents. Vous pourriez prendre le temps d'aller voir Jean 1, 18, Tite 2, 13. Et encore là, Jean 1, 18, c'est parce qu'il y a certaines versions, celles qui s'appuient sur les meilleurs manuscrits, vont vous donner vraiment un argument clair pour dire qu'il est Dieu. Mais je réalise que lorsque je dis ça, ben, si vous n'êtes pas convaincu, vous allez dire les meilleurs manuscrits. Ben oui, ceux qui sont de ton bord. Fait que j'ai préféré pas le mettre, tout simplement. Restons dans les choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment claires. Mais comme je vous dis, c'est le cas. Si vous allez, mettons, vous avez la Bible sommaire, elle va vous rendre Jean 1, 18 très, très clairement sur la divinité de Christ. Jean 1, 1, on l'a mentionné tout à l'heure. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Puis lorsqu'on continue la lecture, qu'on se rend jusqu'à Jean 1, 14, on sait qui est cette parole, d'accord? Alors, simplement, Christ est déclaré être Dieu. Tout à l'heure, je vais revenir sur la notion de parole, parce que là, il y a encore une autre piste qui nous aide à comprendre qui il est. Mais cette parole-là, c'est Christ, c'est le Fils de Dieu incarné, et cette parole-là était avec Dieu, et elle était Dieu, d'accord? On a aussi un indice ici de la Trinité, d'accord? Puisqu'elle était avec et Dieu. Jean 20, 28, 29, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Fait que Thomas tombe en adoration. C'est toi qui as mentionné ça tout à l'heure. Alors, Thomas va adorer Christ et Christ accepte cette adoration. Non seulement il accepte cette adoration, mais il accepte d'être appelé Dieu. D'accord? Il ne le rabroue pas, il ne le corrige pas, il ne lui dit pas « t'es dans l'erreur ». Plus que ça, dans quelques instants, on va voir l'argument lié au mot « Seigneur ». Mais le fait que Thomas associe le terme « Seigneur » avec le terme « Dieu » puis qu'il les attribue les deux à Jésus, pour moi, c'est deux preuves de sa divinité. Parce qu'il l'appelle Dieu, mais parce qu'il l'appelle Seigneur aussi. Dans l'Ancien Testament, « Seigneur », chaque fois que vous rencontrez l'Éternel, c'est le même terme, là. D'accord? Romains 9, 3 à 5. « Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances et la loi, et le culte et les promesses, et les patriarches, de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. » C'est clair. Le Christ qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Alors, faut comme que je fasse la... Faut que je danse un peu avec le texte lorsque j'arrive là, puis que je dis, ah, OK, il est en train de parler de Christ, puis tout d'un coup, il s'en va ailleurs, il s'en va parler à Dieu, tu sais. Hébreux 1, 8 et 9. « Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tous tes égaux. » On a encore un indice sur la divinité, sur la Trinité, et puis on a encore cette idée que Dieu a appelé Dieu quelqu'un d'autre que Dieu. C'est qui? C'est Christ. Ésaïe 9,5. Évidemment, ça, c'est un texte extraordinaire, là, c'est celui de l'Ancien Testament. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Ce texte-là est important. Écoutez bien ceci. Ce texte-là est important parce que parfois, par exemple, les témoins de Jéhovah, on a un ou deux textes dans l'Ancien Testament où le terme Dieu est utilisé pour parler des hommes. D'accord? Par exemple, j'oublie ma référence. Ça te revient-tu? Oui, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux, là, mais j'oublie ma référence. En tout cas, vous savez de quoi je parle? À cause de ça, OK, et là, c'est vraiment l'idée de dire vous êtes comme des gens qui régnaient, puis tout ça. À cause de ça, ils disent, bon, mais dans les Écritures, il y a Dieu avec un grand D qui parle de la divinité, puis il y a Dieu avec un petit D. Puis bon, c'est pas vrai dans les langues originales, mais on comprend ce qu'ils veulent dire. Ils veulent dire parfois Dieu, généralement, à 99%, Dieu, le terme Dieu est utilisé pour parler de la divinité, et à quelques reprises pour parler métaphoriquement d'un homme, puis de parler de sa grandeur ou des choses comme ça, ou de son pouvoir ou de son influence. Et donc, lorsqu'ils arrivent dans un texte comme celui que je vous ai cité juste avant Ésaïe, si vous revenez un petit peu en arrière, le texte qui est cité dans Hébreu, qui vient en fait du psaume 45, « Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. » Bien là, ce qu'ils vont dire, c'est, il est en train de parler d'un petit dé. D'accord? Ton trône, ô Dieu, est éternel. Un petit peu plus loin, lorsqu'il dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Bon, ben ils vont dire, c'est pourquoi, ô Dieu, avec un petit dé. OK, c'est Jésus, ouais, c'est correct. Ton Dieu, avec un grand dé, t'a oint. Tu sais, fait que donc, il n'est pas en train d'affirmer sa divinité. Maintenant, lorsqu'on arrive dans Ésaïe 9:5, là, on comprend comment on peut utiliser le terme Dieu pour parler d'un enfant qui est né. On a un guide ici comment aller interpréter ces textes-là. Dans Ésaïe 9:5, il nous est dit, je suis au haut de la page 4, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » C'est clair qu'on parle d'un être humain, ça va? « Cet enfant-là, la domination va reposer sur son épaule, et voici les noms qu'on va lui donner. » Et ces qualificatifs-là qui sont donnés, ce sont tous des qualificatifs de Dieu. Admirable, conseiller, je vais sauter, Père éternel. Comprenez, on parle d'un enfant qui est né, puis on va l'appeler Père éternel. Père éternel, c'est Dieu. C'est le Père de toute chose, de toute créature qui est éternelle. Prince de la paix. Mais Dieu puissant, ça c'est un terme qui était réservé pour Dieu. Le Dieu puissant. Alors, ici, je ne peux pas dire, bien là, c'est parce que c'est petit Dieu puissant, puis c'est petit Père éternel. Je ne peux pas faire ce jeu-là dans ce texte-là. Donc, dans un texte comme Ésaïe, j'ai un guide pour m'aider à comprendre qu'est-ce que Dieu veut dire dans la Bible lorsqu'il attribue à Jésus le terme Dieu. Est-ce qu'il est en train de nous parler comme d'une autre catégorie que le vrai Créateur, puis il serait un petit Dieu? Je ne peux pas faire cette twist-là avec Ésaïe. Est-ce que vous me suivez? Oui? Ça va? Alors, lorsqu'après, je vais aller interpréter d'autres textes, puis je veux comprendre, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Moi, je vous dirais, c'est le texte. Là. Quand vous voulez avoir une bonne discussion avec les témoins de Jéhovah, c'est le texte où vous tournez. D'accord? Oui. Je vais juste répéter ce que tu as dit. OK, parfois, souvent, dans lorsqu'on va parler de la puissance de Dieu, on va l'appeler le Dieu Tout-Puissant, mais parfois, c'est Dieu Puissant aussi. Fait que... C'est ça. Oui. Mais je vous dirais que le texte en lui-même, Ésaïe 9:5, c'est parce que tu as tout le reste, hein, c'est Père éternel, c'est comme conseiller, admirable, prince de la paix. Tu t'en sors pas, là. Fait que, tu voulais-tu ajouter quelque chose, Stéphane? Non? C'est beau? Oui, c'est ça, mais on va y arriver. On va y arriver à l'Apocalypse. Oui, maintenant, moi, je vous dirais, ce que Stéphane dit, c'est que lorsque tu vas à l'Apocalypse, tu as justement la vision finale, comment est-ce qu'il est dans l'éternité. Essayez de comprendre ces idées-là. Là. Si ce que je vous ai apporté, c'est comme moi, OK, j'ai compris, là, mais je ne saurais pas le répéter dans 2 heures. Là. Retournez lire ça, juste prenez vos notes, ouvrez votre Bible, allez lire les textes. Voir Jésus dans toute sa gloire, lorsque tu lis l'Apocalypse, demande que tu comprennes, ce qui est en germe avant l'Apocalypse. Il faut que tu comprennes où Dieu s'en va dans sa révélation de Christ. Fait que des textes comme Ésaïe, comme Psaume 2, Psaume 45, te préparent à bien comprendre la révélation de Christ dans l'Apocalypse. D'accord? Donc, c'est important que vous familiarisez avec ces textes-là. Encore plus, si vous êtes dans cette... attitude très, très, très contemporaine, là, qui est vraiment caractéristique de notre époque, de tolérance, qui vous amène à garder un fond dans votre esprit où vous dites, mais dans le fond, ils en comprennent assez pour dire qu'ils sont du bon bord, même s'ils n'ont pas compris certaines choses. Puis qui dit qu'on a la vérité, dans le fond? Ben moi, puis prouvez-moi que je suis menteur en ouvrant vos Bibles. D'accord? Alors moi, je ne suis pas une autorité finale, mais moi, je dis qu'on a la vérité, puis eux autres sont dans l'erreur. Prouvez-moi que j'ai tort, ouvrez vos Bibles, venez me montrer que j'ai tort. Mais prenez une position. Restez pas dans cette espèce de mood-là où, comme vous dites, « Ouais, je sais, il enseigne ça à mon église. » C'est même pas biblique comme attitude. Dis-moi ce que tu crois puis ce que tu as vu dans les Écritures. D'accord? Rouvre la Bible, là, puis dis-moi ce que toi, tu crois. Puis affermissez ces convictions-là, c'est des choses importantes. L'utilisation du terme « Seigneur », d'accord, pour Jésus, appliqué au Christ. En grec, c'est « kurios ». Le mot « Seigneur » est parfois utilisé, c'est important, là, j'ai mis la citation ici parce qu'il y a quelques infos. Alors, appliquez votre attention là, juste sur cette citation-là. Le mot « Seigneur » est parfois utilisé comme une simple formule de politesse envers un supérieur, mon Seigneur. Et on le voit dans le Nouveau Testament, d'accord? Et on va parler à ton maître, ton propriétaire, ton Seigneur, ton supérieur. Tu vas aller voir le roi, ton mari, si tu t'appelais Sarah. Quoi qu'Esther l'a peut-être fait aussi avec son mari dans la Bible. Il faudrait que j'amène ça à Esther. OK. Il équivaut à peu près dans ce cas à monsieur. Ça va? D'ailleurs, c'est mon sieur. On se rapproche. Il signifie parfois simplement maître d'un serviteur ou d'un esclave. Le même mot est cependant employé dans la Septante. Alors, la Septante, c'est la version grecque de l'Ancien Testament qui était de commun usage à l'époque de Christ. D'accord? Tous les Juifs qui ne vivaient pas à Jérusalem et plusieurs de ceux qui étaient à Jérusalem lisaient carrément dans la Septante. Mais tous ceux qui étaient le fruit des exils, le fruit de voyages et tout ça qui vivaient à l'extérieur, lisaient leur Ancien Testament dans la synagogue dans la Septante. D'accord? Alors ça, c'est important parce que lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, ça, c'est leur culture à eux. Le même mot est cependant employé dans la Septante, la traduction grecque de l'Ancien Testament, qui était couramment utilisé à l'époque du Christ pour traduire l'hébreu « Yahvé ». Alors, dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, quand on rencontre « Yahvé », c'était traduit en grec par « kurios ». Parce que nous, en général, il est traduit par « éternel ». Dans nos Bibles françaises, régulièrement, c'est traduit par « kurios »,« Seigneur ». Et donc, pour eux, le terme « Seigneur » était un terme admissible pour rendre ce mot-là qu'on ne saisit pas tout à fait « Yahvé ». D'accord? Le mot « kurios » est utilisé pour traduire le nom de l'Éternel 6814 fois dans l'Ancien Testament grec. Par conséquent, à l'époque du Nouveau Testament, tout lecteur de langue grecque ayant une certaine connaissance de l'Ancien Testament grec aurait compris le mot « Seigneur » dans les contextes où cela est approprié, comme faisant référence au Créateur du ciel et de la terre, le Dieu omnipotent. Ça veut dire que lorsque le terme « Seigneur » est attribué à Jésus dans le Nouveau Testament, selon le contexte, les lecteurs de l'époque pouvaient dire « OK, là, il n'est pas en train de dire « Bonjour, monsieur », il est en train de parler à le Seigneur, Seigneur, là. Celui que dans l'Ancien Testament est l'Éternel, là, c'est de lui dont on est en train de parler ici. Et on va aller voir des exemples de situations où c'est dur de le comprendre autrement. Voici un bel exemple de l'utilisation du mot « Seigneur » en parlant du Christ, dans un contexte où il a très certainement le sens fort, le sens de la divinité de l'Ancien Testament. En effet, quand Matthieu parle du ministère de Jean-Baptiste, peut-être vous pouvez tourner dans vos Bibles si vous voulez juste le voir, le situer, l'événement, là. Mais quand Matthieu parle du ministère de Jean-Baptiste, il dit de lui qu'il est celui qui crie dans le désert. C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Tournez avec moi, on va juste aller voir ensemble Ésaïe 43, d'accord? Pour comprendre, pour accepter la force de l'argument, il faut voir qu'on est en train de parler de Dieu ici, là. Alors, nous, on a un Ancien Testament qui est traduit à partir de l'hébreu. Il n'est pas traduit à partir de la Septante. Donc, vous avez le terme « l'Éternel ». Si on lisait la Septante, qui est l'Ancien Testament en grec, ce que vous auriez, c'est « kurios » au verset 3. Okay? « Une voix crie, Ésaïe 40, verset 3, « Préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez les lieux arides. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » que toute vallée soit exaucée, c'est-à-dire qu'elle soit aplanie, que toute montagne et toute colline soient abaissées, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors la gloire de l'Éternel sera révélée, et au même instant toute chair le verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. » C'est Dieu qui s'en vient dans Ésaïe. C'est clair? C'est Dieu qui s'en vient au milieu de son peuple dans Ésaïe. Comme je vous dis dans l'Ancien Testament grec, au verset 3, « Préparer au désert le chemin de l'Éternel », c'est « Préparer au désert le chemin du Seigneur », le Kurios. Alors, lorsqu'on arrive dans Matthieu, puis que Matthieu parle du ministère de Jean-Baptiste, puis il dit « Jean-Baptiste », bien, c'est celui qui annonçait la venue du Seigneur. Seigneur qui est là, c'est Dieu. Puis Jean-Baptiste, il annonçait la venue de Jésus, notre Seigneur. C'est Emmanuel, Dieu parmi nous. Avez-vous suivi ça? Seigneur, ici, c'est vraiment le Seigneur, Seigneur, Dieu parmi nous. Et donc, c'est juste d'attribuer le terme Seigneur, de reconnaître que lorsque j'utilise Seigneur Jésus, je suis en train d'affirmer sa divinité. D'accord? Un autre passage très fort, prochain paragraphe, est la citation que la lettre aux Hébreux fait du psaume 102. Je vous donne les deux textes en bas. Okay, je vais juste lire le raisonnement avant. Le psalmiste parle à son Dieu et le loue pour sa grandeur, et l'auteur de la lettre aux Hébreux cite ce passage pour l'appliquer au Christ. Okay, le psalmiste est en train de parler à Dieu, puis l'auteur de la lettre aux Hébreux, il dit, ça là, ça parle de Jésus. On va juste lire les deux textes ensemble. Je finis mon paragraphe. Ainsi, le mot Seigneur est utilisé encore une fois dans son sens fort et est appliqué à Jésus-Christ. Prétendre que le Nouveau Testament n'enseigne pas la divinité de Christ après la lecture de tel passage ne relève-t-il pas de la mauvaise foi? Alors, écoutez le psaume 102, versets 26 à 28. « Je dis, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours, toi dont les années durent éternellement. » Il s'agit de Dieu. Tu as anciennement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, tu subsisteras, ils s'useront tous comme un vêtement. Tu les changeras comme un habit et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. Dans Hébreux 1, 10 à 12, « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains, mais ils périront. Ils périront, mais tu subsistes, ils vieilliront tous comme un vêtement. » Tu les rouleras. J'ai-tu coupé ça là? Excusez-moi, il manque une feuille. Ah! Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront pas. Alors, l'auteur de la lettre aux Hébreux est en train de dire que ce passage-là est en train de parler de Jésus. Et lorsqu'on va dans le contexte du texte lui-même, c'est clair qu'on est en train de parler de Dieu. D'accord? L'auteur de la lettre aux Hébreux est en train de faire un argument pour qu'on puisse reconnaître que Christ est supérieur à toute créature, qu'il est Dieu le Fils. Vas-y. Oui. Où est-ce que tu es, excuse-moi? Ouais. Oui. Oui, oui. Oui. Non, ça doit être Matthieu. Je m'excuse parce que j'ai scanné. C'est pas Malachie, c'est Matthieu. C'est beau? Oui. Oui, si vous pouvez prendre une note, là, juste faire une correction, mais ces petites affaires-là, généralement, je les prends en note, puis de temps en temps, j'envoie à Samuel des versions corrigées pour le site web. Fait que l'année prochaine, vous irez chercher mes notes sur le web, ils vont tout être corrects. D'accord? Les ML, là, c'est MT pour Matthieu, puis les IN, c'est JN pour Jean. J'ai numérisé le texte, puis j'ai pas remarqué cette faute-là. Ça va? Donc, je retourne au haut de la page 5. Ainsi, lorsque nous retrouvons le roi des rois et le seigneur des seigneurs en Apocalypse 19, 7 à 16, qui est la parole de Dieu et le Christ, il est difficile de voir en cette expression « seigneur des seigneurs » un sens plus faible que celui de l'Ancien Testament pour désigner Dieu. Quand on arrive à la fin de l'Apocalypse, puis Jésus nous est présenté comme le Seigneur des Seigneurs, il est Dieu. D'accord? puisqu'à plusieurs reprises, le terme Seigneur est utilisé pour parler de lui au sens très fort, où c'est Dieu. Il y a carrément des textes de l'Ancien Testament qui nous parlent juste de Dieu, puis dans le Nouveau Testament, ils nous disent « Ouais, ouais, mais c'est Jésus qui est là, là. C'est Jésus. » Fait qu'Emmanuel, tout à l'heure, lorsque j'ai soulevé la question de Louise, Louise a dit « Quand le titre Emmanuel est attribué à Christ, ça veut dire que Dieu est parmi nous. C'est une preuve de sa divinité. » C'est vrai. On pourrait, si on étudie mal le Nouveau Testament, croire que ça veut dire que Dieu est avec nous, parce que Jésus représente vraiment Dieu, comme son représentant. D'accord? De la même manière que si moi j'ai un mandat d'inaptitude sur la vie de mon père, admettons, ben quand je m'en vais à l'hôpital, c'est l'autorité de papa sur sa vie, là. Fait que on pourrait dire, ben écoute, toute l'autorité de ce monsieur-là, et je l'ai entre mes mains. C'est pas dans ce sens-là, Emmanuel. On vient de le voir. C'est dans le sens que Dieu est vraiment parmi nous. Pas que son représentant est parmi nous. Puisqu'il y a des textes dans l'Ancien Testament qui nous parlent de Dieu et qui nous parlent clairement de Jésus-Christ. Le Nouveau Testament nous aide à le voir. Oui, Camille. Oui, oui. Oui. C'est lui qui serait là. Oui, c'est ça. C'est juste qu'il y a cette présence quand même très forte dans les Écritures des représentants de Dieu. Fait que des fois, tu as comme l'ange de l'Éternel, puis là, tu dis, c'est-tu Dieu ou si c'est un ange de l'Éternel qui est là? Fait que c'est des bonnes questions, là, mais je pense quand même que les Écritures sont claires. Nous pourrions donner différents exemples tels que, vous pourrez juste aller voir ces références-là aussi. Autre affirmation claire de la divinité de Christ. D'accord, là, on a regardé avec le terme Dieu qui est attribué à Christ, le terme Seigneur qui est attribué à Christ. D'autres affirmations. Là, je vous ai donné la citation encore une fois parce que c'est clair, c'est bien écrit. C'était plus simple de le faire comme ça. Alors, vous avez une citation de Grudem ici. En plus de l'utilisation des mots Dieu et Seigneur pour parler du Christ, on a d'autres passages qui affirment fortement la divinité du Christ. Quand Jésus a dit à ses adversaires juifs qu'Abraham avait vu son jour, le jour du Christ, le jour de son arrivée, ils lui ont rétorqué « Tu n'as même pas 50 ans et tu prétends avoir vu Abraham. » Ici, pour prouver sa préexistence, il aurait suffi que Jésus réponde « Avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi j'étais. » Si Jésus avait voulu démontrer qu'il existait avant Abraham, ce que les témoins de Jéhovah sont prêts à admettre, d'accord? Jésus existait avant Abraham. Les témoins de Jéhovah n'ont pas de problème avec ça. Pour eux, c'est une créature créée par Dieu, créée avant Abraham. C'est correct, ça va jusque-là. Mais à ce moment-là, il aurait pu dire simplement « J'étais » s'il avait voulu démontrer sa préexistence. Ce n'était pas juste ça que Jésus voulait dire. D'accord? Il va jouer avec les temps, mais il va faire référence à un titre de l'Ancien Testament. Mais Jésus n'a pas dit cela. Il a fait une déclaration bien plus surprenante. « Vraiment, je vous l'assure, lui répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi, je suis. » Encore une fois, je m'excuse, il y a une faute de scan. « Moi, je suis. » Jésus a combiné deux assertions sans tenir compte, semble-t-il, de la concordance des temps. Avant que quelque chose se soit produit dans le passé, Abraham est venu à l'existence, quelque chose s'est produit dans le présent. D'accord? Jésus est en train de dire, « Avant qu'Abraham... » existe dans le passé, pas j'étais, moi je suis. Et donc, je dis, ça ne tient pas, là. On s'entend, ça, c'est pas du bon français, puis c'est pas du bon grec. À moins qu'ils soient en train de dire d'autres choses. D'accord? Les preuves vont venir corriger Jésus, là, ici. Là. À moins qu'ils veulent dire d'autres choses. Je m'excuse, je me perds dans mes notes. Les chefs des Juifs ont tout de suite compris qu'il ne parlait pas de manière énigmatique ou incohérente. Quand il a dit « Je suis », il répétait les paroles mêmes que Dieu a utilisées quand il s'est présenté à Moïse en disant « Je suis celui qui suis ». Vous vous rappelez lorsque Moïse a dit « Comment est-ce que je vais te présenter ?» Je vais dire « Quel nom je vais te donner pour te présenter au peuple d'Israël ?» Mais il dit « Tu leur diras que c'est « Je suis » qui t'envoie. » D'accord? Jésus revendiquait pour lui-même le titre « Je suis » par lequel Dieu se désigne lui-même comme celui qui existe éternellement. Le Dieu qui est à la source de sa propre existence, qui a toujours été et qui sera toujours. Quand les Juifs ont entendu cette déclaration inattendue et solennelle, ils ont compris qu'il affirmait sa divinité. C'est pourquoi, à ces mots, ils se mirent à ramasser des pierres pour les lui jeter. Mais Jésus disparut dans la foule et sortit de l'enceinte du temple. Alors, Jésus affirme ici que le titre sacré de l'Ancien Testament que Dieu s'était donné pour se révéler, c'est le sien aussi. C'est très, 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 très fort comme déclaration. De même, Jésus affirme être l'alpha et l'oméga. Bon, Stéphane, on s'en va dans l'Apocalypse. Ça prenait ça, tu sais. Alors, regardez avec moi Apocalypse 22, 13. Lorsqu'on lit jusqu'au verset 16, on voit que c'est bien Jésus qui parle de lui-même ici. Apocalypse 22, 13. « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour attester ces choses dans les églises. » Maintenant, revenez au début de l'Apocalypse. On va aller dans Apocalypse 1:8. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Alors, lorsqu'on arrive dans l'Apocalypse, spécialement si vous prenez le temps de relire les derniers chapitres, je sais que l'Apocalypse, là, il y a plein de monde, c'est comme « Ouh, ça fait peur, on ne comprend rien. » Allez lire l'Apocalypse pour les choses qui sont claires. Humblement, quand vous arrivez, puis c'est confus, puis vous ne savez pas, dites « Seigneur, je m'engage à prendre un bon cours lorsqu'il va en avoir un à l'Église. » C'est correct. Mais à part de ça, il y a beaucoup de choses extrêmement claires dans l'Apocalypse qui te conduisent à l'adoration. C'est un livre extraordinaire, c'est une fenêtre sur l'éternité. Absolument fantastique. Et lorsque vous lisez spécialement la fin de l'Apocalypse, vous arrivez avec cette espèce d'image où Dieu puis Christ, c'est parfois clair lequel est où, puis c'est pas toujours clair parce que des fois ils sont à la même place, puis des fois ils font la même chose, puis des fois ils sont assis même à la même place. Fait que là tu dis, OK, c'est vraiment une autre facette de la personne de Dieu. Christ est une autre facette. C'est pour ça qu'on en vient à croire à la Trinité. Mais tu ne peux pas juste le dissocier et juste s'y donner comme un statut de créature supérieure aux autres à côté de Dieu quand tu lis l'Apocalypse et tu vois la place qu'il occupe au niveau de l'adoration. Évidemment, ça a été mentionné dans Jean 1:1. C'était Linda qui le mentionnait. Puis tout à l'heure, on l'a regardé. Mais... dans Jean 1:1, lorsque Jean nous dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu », puis qu'on voit que cette parole-là, c'est Christ, bon, mais tu dis « OK, Christ est Dieu », ça c'est clair. Mais le terme « parole » lui-même, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a deux éléments. Premièrement, l'idée que dans les Écritures, comment est-ce que Dieu crée? C'est par sa parole. Dans Genèse, hein, c'est par le souffle de sa bouche, par ce qu'il dit. Il dit et la chose est. Maintenant, je vous donne un psaume ici, le psaume 33:6, si vous regardez au bas de la page 5. « Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Quand tu lis ça, tu ne peux pas vraiment te dire « il y a Dieu, puis il y a un autre être qui s'appelle le souffle de sa bouche. » Comme si ce n'était pas Dieu, comme si c'était juste un ange envoyé ou une créature supérieure à toutes les autres créatures, mais pas Dieu. Donc, quand tu lis le psaume 33, tu vois bien que c'est Dieu qui, par sa bouche, par sa parole, crée. D'accord? C'est une personne dans le psaume 33. C'est ce que Jean essaye de nous dire dans Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu, oui c'est vrai, mais elle était Dieu, il est vraiment Dieu, il fait vraiment partie de la personne de Dieu. Et donc cette idée-là que Dieu crée toute chose par sa parole nous aide à comprendre qu'il est vraiment partie intégrante de Dieu. C'est un petit peu ça que Sylvain citait lorsqu'il citait tout à l'heure, quand Jésus dit à Philippe, « Oui, mais Philippe, vous m'avez vu, vous avez vu Dieu? » c'est parce que Dieu est invisible, toi tu es visible. Je te dis quand même, vous avez vu Dieu. Je suis la révélation de Dieu. Je ne suis pas juste autre, je suis Dieu. Bon, puis dans le contexte, à l'époque, le logos, c'est un concept grec aussi. Et ça, je ne pourrais pas m'étirer sur ça. Mais lorsque Jean décide d'utiliser le terme logos pour parler de Jésus, il est en train de parler aussi du principe qui organise tout l'univers. Et donc, il est en train de faire allusion à ce principe-là. Jésus est l'être par lequel tout l'univers a été fondé et organisé et structuré. Et donc, il est en train de faire un jeu avec un concept grec ici. Ça, je ne pourrais pas aller dans tout ça, ce serait beaucoup trop. Ainsi, nous pouvons affirmer sans l'ombre d'un doute que la Bible nous présente Jésus-Christ comme étant entièrement Dieu et entièrement homme. Et c'est en vertu de ces deux natures que cet être sublime et merveilleux a pu nous offrir un si grand salut. Véritablement homme, il s'est offert pour nous et a pris les péchés de tant d'hommes sur des épaules divines, étant véritablement Dieu. Grudem fait un bel argument en terminant son chapitre. Les deux sections, il les termine en disant, pourquoi est-ce que c'est important que Jésus soit vraiment homme? Mais premièrement, pour qu'il puisse vraiment s'identifier avec notre faute. D'accord? Que le sacrifice, ça peut sembler simpliste de dire, Dieu est juste, tous les hommes sont condamnés, et un seul homme va venir neutraliser tout ça. Juste un sacrifice, ça va être bon pour tout le monde. Alors, c'est important qu'il soit vraiment homme pour que son sacrifice soit valable. Mais en même temps, est-ce qu'un seul homme pouvait prendre tous les péchés des hommes sur ses épaules? Non, mais un seul Dieu, oui. Et donc, c'est important aussi de voir, et ça fait partie de la beauté du christianisme. Mon Dieu, à moi, s'est offert en sacrifice pour mon salut. C'est ça le christianisme. Mon Dieu, à moi, est devenu un homme pour comprendre ce que je suis, pour s'identifier avec mes luttes et mes combats, pour avoir compassion. Il n'est pas juste le Dieu machiavélique. Vous savez, lorsque les gens luttent, puis des fois, nous-mêmes, on va lutter avec ces questions-là, puis on va dire, oh, mais pourquoi Dieu a fait tout ça s'il savait que ça allait virer tout croche de même? Quand tu as fini de te poser toutes les questions, il reste des sans-réponses, il reste des éléments où tu n'as pas de réponse. Ce qui me réconcilie toujours avec Dieu, c'est Christ et la croix. Lorsque je réalise que ce n'est pas juste un homme qui est sur cette croix-là, c'est mon Dieu qui est allé là. D'accord? Et donc, ce Dieu-là nous a créés, c'est vrai, en connaissant une destinée terrible pour plein d'hommes, puis en connaissant une destinée extraordinaire pour plein d'hommes. Mais ce Dieu-là, est pas comme, il n'a pas parti quelque chose qui allait être à sa gloire, puis il est allé prendre des vacances dans le sud. Il est venu s'incarner et lui-même est mort sur la croix. D'accord? Lui-même est devenu vraiment homme-Dieu et il s'est rendu à la croix pour nos péchés. Donc, c'est important dans notre compréhension, dans notre appréciation de l'Évangile. C'est entre autres ce qui fait que les témoins de Jéhovah sont encore sous la loi. Ils ne sont pas sous la grâce. Ils sont en train d'essayer de gagner leur ciel. Ils n'ont pas compris l'Évangile. Oui. Tu veux-tu parler juste un petit peu plus fort? Tiens.
Ce que tu viens de dire, je crois que c'est la raison d'être des Écritures. C'est la première porte d'entrée pour comprendre les Écritures, connaître qui est Christ. Je crois que l'Écriture a été conçue dans ce but-là. Fait que pour tout autre sujet, là, l'Écriture, c'est comme pelleter des nuages. Mais quand tu comprends ça, là, ça devient vivant. Vivant pour toi.
Ouais.
C'est vraiment vrai. Là. Elle est vraiment venue pour te démontrer que Christ est Dieu. Puis qu'il a accompli une œuvre pour qu'on puisse participer.
Bien, je veux dire, un argument secondaire, là, dans les... Merci Sylvain, c'est tout à fait juste. Dans les arguments que je vous apportais, on appelle ça des arguments primaires. D'accord? C'est des arguments qui... C'est comme dur juste de les mettre de côté. Mais dans les arguments secondaires, où ça prend peut-être déjà une prédisposition favorable à voir ça comme ça pour les accepter, quand Jésus dit que toutes les Écritures parlent de lui, je dis, pour moi, il est en train de déclarer sa divinité en tableau. Comprenez? Toutes les Écritures parlent de moi. Hey, t'as la tête enflée, mon ami, si t'es pas Dieu. Comprends-tu? Fait que, non, non. Tu connais Christ, puis tu retournes toutes les Écritures pour connaître Christ. D'accord? Maintenant, c'est des arguments secondaires. Parce qu'il faut avoir vu les textes clairs pour après ça dire... Mais donc, dans ce sens-là, lorsque Sylvain dit que bien comprendre cette doctrine-là, c'est la porte d'entrée pour comprendre après les Écritures, c'est vrai, là. Je ne peux pas aller apprécier ces textes-là comme il faut. Tout à l'heure, là, dans la prédication, on est dans Néhémie, puis Néhémie va faire une imprécation. D'accord? Ça veut dire qu'il va prier Dieu pour que Dieu... Bon, il n'est pas aussi dur que Jérémie ou que d'autres textes, mais que Dieu casse les dents à ses adversaires. Okay? Il dit, pardonne-leur pas leur péché. T'sais? Tu ne peux pas comprendre cette imprécation-là comme il faut si tu ne comprends pas Christ. Vous allez voir tantôt, je vais faire l'argument. Là, comment est-ce que nous, on fait pour comprendre ça, les imprécations? C'est Christ qui nous aide à comprendre tout ça. C'est lui qui nous aide à nous réconcilier et savoir comment prier pour nos ennemis. D'accord? Une dernière question? On s'arrête? C'est bon? Oui. Vas-y. De la divinité. Tu veux-tu juste donner ta référence?
Oui, c'est dans Colossiens 2:9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
Oui. Amen. Oui. La semaine prochaine, on voit ensemble son œuvre. D'accord? Il y a beaucoup de matière. Je vais tâcher de vous envoyer ça vendredi. Cette semaine, j'étais encore à la course. Si vous êtes capable de lire ça un peu avant, parce que c'est vaste, mais ça va être une introduction encore à ce sujet-là. C'est bon? On va terminer avec un mot de prière. Seigneur Jésus, en lisant tous ces passages sur ta personne, j'étais encore tellement, tellement béni personnellement, Seigneur. De savoir que tu es mon frère et que tu es mon Dieu. C'est absolument extraordinaire, Seigneur. Je ne pourrais pas aller vers un autre prophète, une autre soi-disant révélation, Seigneur, lorsque j'ai connu Jésus-Christ dans toute ta gloire et ta beauté. Seigneur Jésus, t'adorer, élever ton nom, ce n'est pas enlever la gloire au Père. Parce que tu as parfaitement fait connaître le Père. Se prosterner devant toi et t'adorer, c'est adorer Dieu. C'est adorer le Père dans toute sa compassion, dans toute sa justice, sa droiture, sa fermeté, sa grâce, sa patience. Seigneur, je veux reconnaître ce matin que dans tes paroles, tes attitudes, tes comportements que nous voyons à travers les évangiles, je vois un Dieu comme je veux l'aimer. Je vois un Dieu qui est accueillant, je vois un Dieu qui est juste, un Dieu qui voit au cœur, qui ne juge pas aux apparences, mais qui discerne vraiment les motifs du cœur. Je vois un Dieu qui est compatissant, qui est patient. Je vois un Dieu qui est puissant, Seigneur, qui est grand. Quel homme aurait pu te faire trembler, Seigneur? Aucun homme. Nous voulons t'adorer, Seigneur Jésus, et te dire combien nous sommes reconnaissants que tu te sois révélé à nous. Que ton esprit ait ouvert les yeux de notre cœur pour que nous ne méprisions plus ta personne, ta grâce, ta croix, Seigneur, mais que tu fasses de nous des adorateurs. Je te prie, Père, de bénir tous et chacun ici, de nous préparer à prendre tout à l'heure ce mémorial, le repas du Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à honorer ton évangile dans nos cœurs et dans nos vies. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. Amen. Merci.